minutieusement informé, technologiquement outillé, conscientisé aux problématiques de son époque. Philippe-Vincent Foisy. Il expose tous les côtés des affaires publiques. Santé, économie, culture, politique. Peu importe les enjeux, il s'intéresse à tout. Philippe-Vincent Foisy. Cube Radio.
Cube Radio. Vendredi 21 janvier, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin. Un autre matin assez froid quand on regarde la température. On est à moins 25 en ce moment, moins 31 le ressenti. Moins 19 le maximum aujourd'hui avec du soleil. Mais là, la nuit prochaine s'annonce pas mal froide. On a un avertissement de froid extrême, moins 29. C'est la température attendue, mais avec le vent, on devrait atteindre du moins 38, du moins 40. Et ça, c'est pour la région de Montréal. Alors, je vous laisse imaginer un peu partout ailleurs au Québec où le froid est habituellement un petit peu plus mordant. Je pense à l'Abitibi, Québec. Dominique, à qui on va parler dans les prochaines minutes, va pouvoir nous dire à quoi ça va ressembler de son côté dans la capitale. Mais sincèrement, faites attention. D'ailleurs, Hydro-Québec qui demande à la population de diminuer la consommation d'électricité aujourd'hui, toute la journée et samedi en avant-midi. On a des besoins justement pour éviter d'atteindre et de dépasser des pointes. On s'attend fort probablement à fracasser un nouveau record. Alors, si vous avez une brassée, ben attendez à samedi après-midi, à dimanche, ne la faites pas, partez le lave-vaisselle durant la fin de semaine, mais faites attention aujourd'hui et demain avec la consommation d'électricité. Maude, bonjour.
Salut Philippe-Vincent.
Pas mal de nouvelles ce matin dans les différents quotidiens sur la COVID et un peu partout, on parle de ce froid polaire à l'école.
Hein? Ça m'a fait halluciner ce matin, puis je me dis, une chance qu'il n'y a pas d'école la fin de semaine, parce que aujourd'hui
c'est
extrêmement froid, mais tu sais... Ouvrir les fenêtres pour aérer.
C'est pas une craque, là. Parce que, tu sais, on a mis des lecteurs de CO2 dans les écoles. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y en a beaucoup qui dépassent les normes. Là, on va nous dire, c'est mal calibré. Il y en a juste 42% des classes qui en ont, etc. Mais bon. Et là, on dit, ben, ouvrons les fenêtres. Au moins, ça va faire circuler l'air. Là, il y a des enfants qui disent, ben, moi, faut que je mette mon manteau. Froid, j'ai ben trop froid. Des profs qui achètent des chaufferettes.
Moi, c'est la partie qui m'a fait le plus sourciller. T'arrives au travail avec ta chaufferette. Mais
moi, à l'époque, on me punissait quand je parlais trop en classe, on m'envoyait dans le fond, mais je pense qu'avec une nouvelle punition, c'est tu vas aller sur le bord de la fenêtre.
tu vas avoir pas.
Je pense que j'arrêterai de parler.
Ouais, puis tu sais, il y a un article aussi dans Le Devoir là-dessus ce matin en une orthopédagogue qui dit, ben, là, j'ai plus que le seuil de PPM qui est inscrit sur mon lecteur, mais à ce moment-là, je fais quoi? On va pas mourir si on reste dans la classe, mais juste, je fais quoi? Parce que je le sais que c'est plus élevé que ce qu'il faut, mais là, les fenêtres ouvertes à moins 30, ça va être correct.
Non, c'est ça. Puis après ça, on change quoi? Parce que là, ce que le ministère nous disait, c'est que ben, ceux qui demandent un échangeur d'air vont en avoir. Ben, est-ce que ce serait le temps que ces écoles-là en demandent, le fassent, les installent, qu'on accélère, ou peut-être qu'on aille au-devant de certains centres de services scolaires qui parfois peuvent être endormis? C'est l'impression du moins que ça donne, si c'est pas le cas. Prouvez-le. Hier, Québec qui a décidé d'attendre avant d'annoncer la levée de certaines mesures, contrairement à l'Ontario, la France, le Royaume-Uni, qui sont en train de planifier leur déconfinement. D'ailleurs, ça se reflète un peu là, dans le ras-le-bol des gens. Là, on a vu la pâtissière de Saguenay qui était pas contente, qui a décidé d'ouvrir sa salle à manger, qui était au bout du rouleau, qui a dit assez, c'est assez. Puis on le sent aussi dans les sondages. Il y a un sondage Crop la presse ce matin qui dit que les gens sont de plus en plus tannés. Là, sur une échelle de 1 à 10, comment les gens se sentent? On est à 5,9. On est à 6,5 il y a un an, puis à 8,6 en début de pandémie. C'est vraiment les jeunes, les 18-34 ans, 4,5. On apprend aussi dans le sondage qu'à peu près un quart là, de la population qui aurait quelqu'un dans leur ménage, dans leur famille qui a contracté la COVID-19. On parle de la contribution santé aussi, à peu près un tiers de la population qui dit que ça devrait être plus de 1 000 $, et aussi près de 70%, là, 7 personnes sur 10 qui ne croient pas que le Québec va un jour, d'ici un an ou deux, là, être de retour à la normale. D'ailleurs, sur les cas, pas mal parlé là, du fait qu'on ne testait plus. Difficile de savoir à peu près il y avait combien de personnes. Selon une étude du Cyrano, on estime qu'il y a à peu près entre 33 et 58 000 nouveaux cas par jour qui ont été enregistrés au cours des derniers jours.
parce qu'on n'a plus les tests PCR pour venir confirmer tout ça. Donc, test rapide à la maison, mais c'est comptabilisé nulle part à ce moment-là. Donc, le reflet est vraiment...
Exact.
c'est un autre monde complètement.
On est à 5, 6, 7 fois plus que ce qu'on avait, ce qu'on enregistrait. D'ailleurs, nous, dans les médias, il y a plein de médias qui ne diffusaient même plus, de toute façon, le nombre de résultats quotidiens, justement, parce que ça ne reflétait pas la réalité. C'était plus un chiffre qui était nécessaire. D'ailleurs, au niveau de ces tests-là et des infections, Radio-Canada nous apprend qu'il y a près de 5500 personnes qui ont passé un test PCR au début du mois de janvier dans le nord de Montréal. Ils viennent de recevoir une lettre, pas pour leur donner le résultat, mais pour leur dire que, ouais, le résultat, l'échantillon de dépistage, ça a été détruit. Vous ne connaîtrez pas votre résultat. On a eu des petits pépins techniques. Tant pis pour vous. Donc ça, ça a été fait entre le 2 et le 7 janvier. La presse nous parle aussi de ces infections dans les hôpitaux. On parle d'une moyenne d'à peu près 1000 nouveaux cas par jour d'infections qu'on appelle nosocomiales. C'est quelqu'un qui rentre, qui ne l'a pas, mais qui l'attrape dans les hôpitaux. Et là, c'est pas clair si on les comptabilise dans les chiffres des cas hospitalisés, on les met où, ces nouveaux chiffres-là. C'est pas clair. On a d'ailleurs Sébastien Trudel, qui Richard a parlé plus tôt cette semaine. Vous pouvez aller réécouter son entrevue. On lui parle aussi dans la presse. Et là, Maude, autre gros dossier dans le Journal de Montréal, de l'équipe de JE sur des chirurgies. Du rêve au cauchemar.
Ah, je me suis sentie mal en lisant ça, ce matin. Puis c'est mal dans tous les sens, là, parce qu'on raconte l'expérience de deux Québécoises qui ont été en Colombie pour avoir des chirurgies de nature esthétique, qui ont eu une des pires expériences de leur vie. Il faut savoir que comment ils sont venus à aller en Colombie pour faire ces chirurgies-là, ben c'est parce que deux Québécoises font la promotion sur les réseaux sociaux de ces chirurgies-là esthétiques pour le docteur Plazas. Donc, elles ont toutes les deux été opérées par le docteur Plazas et référées par deux Québécoises qui leur ont dit qu'il n'y avait pas de problème puis que ça allait être la meilleure chirurgie qu'il allait avoir. En gros, là, que le docteur Plazas était super qualifié et qu'elles allaient être très satisfaites du résultat. Ça a été tout le contraire. Une fois arrivées là-bas après la chirurgie, juste vous mentionner là, que le docteur Plazas pousse là à un autre niveau l'accueil des Québécois, des Québécoises qui veulent aller se faire des chirurgies.
Comme une clientèle qu'il veut aller chercher.
Ouais, lui, là, il part avec son bonnet du Canadien de Montréal, puis tu sais, question de mettre, j'imagine, ses patientes en confiance. Mais finalement, notamment Alexandra Denis-Bérubé, de qui on raconte l'histoire, elle est allée pour subir une opération au sein, aussi une augmentation des fesses appelée un Brazilian Butt Lift, un peu pour avoir des silhouettes là, à la Kim Kardashian puis à la Nicki Minaj. Elle est allée là-bas, puis il y a des images, si vous avez pas pris votre déjeuner ce matin ou si vous venez de le prendre, comme...
Soyez avertis, c'est pas super.
C'est pas super chic. Donc, elle raconte qu'elle avait mal partout, que tous les emplacements qui avaient été ouverts avaient pas été refermés correctement. Donc, tout ce qui entoure ça, ben, ça l'a suivi au Québec. A dû avoir des soins au Québec. Une patiente aussi qui témoigne anonymement, qui lors d'une liposuction a carrément été brûlée durant la liposuction. Et le retour des personnes qui l'ont référé, là, des deux Québécoises qui sont ici puis qui font la promotion de ces chirurgies-là, ben, c'est de dire, ben, ça arrive des complications.
C'est tout.
Mais ce sont pas de petites complications. La dame qui témoigne de façon anonyme aurait carrément pu y laisser sa peau, là. Donc, tout à l'heure, on va parler à une de ces deux patientes-là, là, qui a été en Colombie, là, Alexandra Denis-Bérubé à l'émission. Elle sera là. Puis avec Richard Martineau, là, on aura Félix Séguin qui, lui, s'est rendu justement en Colombie pour aller constater tout ça.
Sinon, il y a une histoire aussi d'une avocate soupçonnée dans une affaire de meurtre. Raconte-moi ça.
Ouais, c'est une histoire digne d'un roman. Un policier, une jeune avocate, donc, qui est dans la mire de la Sûreté du Québec dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un trafiquant de drogue qui a été abattu sur la Rive-Nord il y a 3 ans. Les enquêteurs ont des raisons de croire que Maître Noémie Tellier, elle aurait été complice après le fait du meurtre de Francis Turgeon. Lui aurait été la cible d'un règlement de compte en mai 2019 parce qu'il refusait de donner, là, en gros, sa part aux Hells Angels pour avoir le droit de vendre de la drogue à Repentigny. Il y a un des principaux suspects dans l'affaire qui est Kevin Saint-Pierre, 32 ans. Lui, c'est l'ex-conjoint de la criminaliste et il est le père de son enfant. Le soir du meurtre, les policiers le soupçonnent de s'être rendu au domicile de la victime avec un complice dans la voiture qui appartenait à l'avocate. Mmh. Dans les jours qui ont suivi, alors qu'elle était sous filature, Maître Tellier, elle aurait fait plusieurs manœuvres en conduisant que les agents qualifient de contre-surveillance. Par exemple, faire un demi-tour dans une sortie d'autoroute, prendre une sortie au dernier moment. Il n'y a aucune accusation qui a été portée contre l'avocate jusqu'à présent. L'enquête de la police de Longueuil dans ce dossier-là là, elle est toujours en cours. Là. Puis il y a beaucoup plus de détails là, que ce que je vous résume en ce moment. Là, c'est disponible sur le site du journal, puis dans le journal papier.
Et là, il y a un drame au Manitoba. C'est une histoire, on a appris ça hier. Il y a une arrestation aux États-Unis.
Ouais.
Un enfant là-dedans qui serait mort aussi.
Oui, une famille de 4 personnes, donc qui étaient visiblement des migrants d'origine indienne, qui a été retrouvée morte mercredi après-midi au Manitoba. 2 adultes, 1 adolescent, 1 bébé qui ont été découverts à peu près à 10 mètres de la frontière avec les États-Unis, mais du côté canadien, à Emerson, et sont visiblement décédés d'hypothermie. Le bureau du procureur du Minnesota a émis un communiqué hier après-midi pour annoncer l'arrestation d'un homme de 47 ans en lien avec toute cette affaire-là. Steve Shand, lui, est originaire de la Floride, a été accusé de trafic d'êtres humains. Toute une histoire là, qui arrache le cœur.
Merci, Maude.
Bye.